20 millions. C'est le nombre de morts estimés causés par le projet communiste en URSS. Alors l'URSS devait pourtant être l'aboutissement du projet communiste, la libération de la classe ouvrière. Le communisme, en tout cas dans cette version, est un projet raté. Alors bien sûr, le communisme est un projet humain, plein de belles promesses, mais vicié par nos incompétences. Il ne devrait pas en être de même d'un projet divin. Et pourtant, quand on regarde le monde, dans son ensemble, il nous semble bien que c'est un autre projet raté. Dieu a-t-il vraiment réussi son coup? Considérez par exemple, chaque seconde dans ce monde, deux personnes meurent. La maladie est omniprésente. Le mal aussi. Si Dieu a réussi son projet, quel est-il? Le texte que nous allons lire aujourd'hui est en toute vraisemblance destiné au peuple d'Israël lors de l'Exode, lorsqu'il était au désert. Pour vous rappeler le contexte, le peuple d'Israël a passé des centaines d'années d'esclavage en Égypte, et Dieu les a délivrés à travers de nombreux miracles pour aller en terre promise, l'actuel Israël ou Palestine, nous n'en sommes pas le débat ce soir. Et si le peuple est déjà libéré, certes, mais il n'est pas encore arrivé, et il passe par le désert, il passera même 40 ans. Il désespère de faim, de soif. Dieu a fait des promesses, on a accompli certaines, mais le résultat final tarde. Et c'est donc la question que se pose ce peuple. Dieu aurait-il oublié son plan? Si vous êtes chrétien aujourd'hui, la même question se pose pour vous. Avec toutes les promesses inaccomplies, Dieu aurait-il oublié son plan? Et puis si vous n'êtes pas chrétien, c'est probablement une de vos principales objections contre le christianisme. Que fait Dieu? Où est-il donc? Ne devrait-il pas faire mieux? Pouvons-nous vraiment croire que le plan de Dieu est raté? Que Dieu avait de bonnes intentions et qu'il n'a pas réussi à les amener à terme? Comment savoir? Eh bien pour cela, il nous faudrait connaître le plan de Dieu. En sachant quel est son plan, on pourrait estimer son degré de réussite. Il faut donc répondre à une question avant toute autre. Quel est le plan de Dieu pour le monde? La Bible est bien faite. C'est à cette question que répond le premier chapitre de la Genèse. Et à cette question, le premier chapitre de la Genèse répond « Dieu a créé toutes choses bonnes dans un but, le repos. » Alors je vous invite à la lecture de ce texte. On va lire tout le premier chapitre de la Genèse, ainsi que les trois premiers versets du chapitre 2, puisque le récit de la création continue un peu. Et malgré la longueur du texte, on va le lire en entier. Je lis donc dans les Écritures. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue des eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu dit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je vous invite à la prière. Père éternel, Dieu créateur, nous voulons vraiment venir devant toi avec un cœur humble. Garde-nous, garde nos cœurs. Agis par ton esprit afin que nous puissions t'écouter. Que ta parole aujourd'hui, que tes écritures seules soient notre référence et nous enseignent. Enseigne-nous aujourd'hui afin que nous t'adorions. Amen. Alors je disais, ce texte, il a un message principal, ce n'est pas nécessairement le seul, certes, mais c'est le message principal. Dieu a créé toute chose bonne dans un but, le repos. Et assez simplement, c'est développé en trois points. Dieu est créateur de toute chose. Dieu est le Dieu bon en toute chose. Et Dieu est le Dieu de repos pour toute chose. Alors, remarquez déjà que pas un seul moment le texte laisse supposer que Dieu ne serait pas créateur. D'après Genèse, Dieu est créateur d'absolument tout. Regardez par exemple le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est une ouverture assez magistrale pour le moins, aussi bien pour la Genèse que pour toute la Bible. Je pense qu'il nous est difficile de percevoir à quel point toute la puissance de ce texte pour un regard moderne. On est habitué à cette idée, on a déjà entendu ce texte des milliers de fois. Mais à l'époque de la rédaction, cette idée est incroyablement à contre-courant. La thèse de la Genèse, en effet, ressemble à d'autres textes comparables de l'Antiquité, qu'on appelle cosmogonie. Vous pouvez noter ce mot pour des pendus, malheureusement il y a un peu trop de haut dedans. Donc bon. Les cosmogonies, c'est des récits de origine, plus ou moins imagés, dont le but est d'expliquer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il existe beaucoup de cosmogonies qui ont été écrites à l'époque, et particulièrement dans les civilisations avoisinantes, donc l'Égypte et Babylone principalement, et ces textes commencent souvent de la même manière, parfois même avec les mêmes mots, au commencement. Et dans ces textes, au commencement, il n'y a pas Dieu. Il n'y a même pas des dieux. Souvent, on commence par l'exposé d'un cadre chaotique, comme au verset 2, dans lequel les dieux évoluent. Ce n'est pas le cas de la Genèse. Pour la Genèse, au commencement, il y a Dieu. Dieu est tellement créateur qu'il crée le cadre lui-même. Voici même à quel point Dieu est créateur dans ce texte. Le chaos du verset 2, c'est lui qui le crée. Et Dieu, évidemment, ne crée pas seulement le cadre. Il crée aussi tout le contenu. La quasi-totalité du texte décrit Dieu ordonnant à l'existence différentes choses de ce monde. Il y a certaines proclamations qui sont incroyables. Regardez par exemple le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Lorsqu'on considère que les civilisations avoisinantes, en particulier Canaan qui occupait la terre promise, voient un culte aux astres, c'est une affirmation extrêmement forte. Le soleil et la lune ne sont pas des dieux, ce sont des créations. Et pourtant, je pense que c'est la mention des étoiles qui devrait nous frapper. Les étoiles, c'est l'expression de la multitude. Alors malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus vraiment le constater, dans nos contrées, mais si vous avez l'occasion, faites-moi plaisir, un jour, allez à la campagne, de nuit, regardez le ciel, et constatez à quel point on ressent ce sentiment presque oppressant de multitude en regardant les étoiles. Ce sont les étoiles innombrables. Eh bien, même elles, dans leur multitude, c'est Dieu lui-même, God himself, qui les a créées. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous font de la cuisine. Moi, je me débrouille, et je ne fais pas des grandes choses. suis pas grand-chose non plus, remarque. Mais je suis en général capable de suivre une recette, et à la fin, ça a plutôt bon goût. Par contre, j'ai beaucoup de mal à gérer les détails, surtout ceux de présentation. Ma cuisine est rarement belle à voir, même si ça arrive par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont bien meilleurs. Je ne vais pas faire jaloux, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, ma maman. Ma maman, c'est la meilleure cuisinière que je connaisse. Elle est capable de faire des choses qui sont belles et bonnes globalement, bien sûr, mais aussi dans les détails. Contrairement à moi, elle va réussir à saupoudrer correctement le chocolat sur le tiramisu ou à disposer correctement des framboises sur un gâteau. Et le fait que je cite que des desserts, ça en dit plus sur moi que sur elle. Même les détails, elle les réussit. Puis maman, elle est tellement forte qu'elle est même capable d'inventer des nouvelles recettes. Si, si, vous pourrez lui parler de son sicard à la fin, qui ne signifie pas que vous êtes à sicard rempli après l'avoir mangé, mais qui a deux ingrédients de plus que le 4 quarts. Eh bien, si Dieu était cuisinier, c'est incroyable ce que je vais dire, peut-être hérétique, mais si Dieu était cuisinier, il serait plus fort que ma maman. Plus encore, Dieu serait certes plus fort que ma maman, mais ma maman ne lui arriverait même pas à la cheville. Désolé, maman. Non seulement les plats de Dieu sont bons et beaux, non seulement il gère les détails avec d'une manière impressionnante, peut-être en passant chaque grain de chocolat sur le tiramisu individuellement. Non seulement il invente des nouvelles recettes au goût prodigieux, mais en plus, son inspiration, il la trouve en lui-même. Il n'a pas besoin de conseillers ou de recettes dès qu'elle partir, comme pour le 4/4. Il l'invente ex nihilo, à partir de rien. Et donc, Dieu est non seulement cuisinier ultime, mais il est aussi le premier d'entre eux. Ne travaillant sur aucun schéma intérieur, aucune idée qui ne l'a précédé. Voici le Dieu qui nous est présenté. Et d'être encore plus impressionnant, c'est la facilité avec laquelle il le fait. Par exemple, le psaume 33 qui commence sur la création nous dit « Car il dit et la chose arrive. Elle ordonne, il ordonne et elle existe. » Dieu est créateur, certes, mais il est aussi créateur souverain. Voici la présentation du pouvoir de Dieu dans ce texte. Il crée absolument toutes choses, des plus petites aux plus grandes, et est parfaitement souverain sur elles. Ce texte répond donc à un risque, celui de croire en un Dieu trop humain. À l'époque de la rédaction, les dieux étaient pensés comme internes au monde. C'était des humains exaltés en quelque sorte. Ils étaient plus puissants que nous, certes, mais pas foncièrement différents. Ce n'est pas le cas du Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens est véritablement Dieu, en dehors de sa création et distinct d'elle. Pourquoi cela a-t-il important? Et rappelez-vous, dans le désert, le peuple d'Israël se demande « Dieu a-t-il oublié son plan ?» Eh bien non. Dieu est parfaitement souverain. Il contrôle tout, depuis le début. C'est certain, il amènera son plan à achèvement. Et cela peut nous inquiéter. Si Dieu est parfaitement souverain, et que tout semble aller si mal, cela signifie-t-il que son plan est notre mal? Non. Car Dieu est un Dieu bon. Et en effet, à cette question qu'on se pose, Dieu veut-il notre mal? Le texte répond 1000 fois non. En fait, il y répond 7 fois. C'est le nombre de fois qu'il a répété l'expression « Dieu vit que cela était bon ». Pas une seule fois dans le texte, l'action de Dieu n'est mauvaise, au contraire. Elle est régulièrement et justement présentée comme bonne. Même l'homme est bon. Encore une fois, dans un texte pareil, c'est une mention assez surprenante. Dans les cosmogonies égyptiennes ou babyloniennes, les hommes apparaissent souvent comme des troubles pour les dieux, parfois même en faisant trop de bruit. Mais parfois, ils sont présentés comme rivales. On est là très très loin de toutes ces idées ici. Non seulement l'homme ne présente aucun risque pour Dieu, ou même une gêne, mais en plus, il est positif. Son apparition rendant la création très bonne. Et ce passage décrit probablement indirectement Dieu. C'est seulement après avoir créé l'homme que tout est très bon. D'après le verset 27, l'homme porte l'image de Dieu. C'est lorsque l'image de Dieu est enfin présente dans la création que la création elle-même est très bonne. Ainsi, Dieu à l'image de son image doit être très bon. Retournons à nos oignons, enfin à notre cuisine. Je vous disais que Dieu était le premier et l'ultime cuisinier, capable de faire des plats à la fois magnifiques, excellents, détaillés et nouveaux. Mais cela indique-t-il que ces plats sont bons pour la santé? Voire même qu'ils ne soient pas volontairement mauvais pour nous. C'est beaucoup de culture que moi, vous connaissez sans doute Astérix, Obélix chez Cléopâtre. Et dans cette histoire, Amonmophis, un Égyptien, cherche à empoisonner la reine Cléopâtre afin de faire accuser les Gaulois et le fait en préparant un pudding à l'arsenic. Alors bien sûr, ça demande beaucoup de maîtrise. Nul doute que c'est un pudding somptueux, bien détaillé, et au goût ravissant pour ne pas semer le doute quand on le mange. Mais le but du pudding, c'est le mal. Dieu est-il comme un bon beau-fils? Est-il capable de tout, mais fait le mal. Partout la question est légitime, on l'a dit, si Dieu est vraiment souverain, tout le mal qui nous arrive, n'est-ce pas la preuve qu'il nous veut du mal? La réponse de la Genèse a un non, un grand non. Non seulement ne nous veut pas de mal, mais rien dans ce qu'il fait est mal. Tout ce qu'il fait est bon, incroyablement bon, et Dieu lui-même, comme son image, est très bon. Alors, on évite un premier écueil il y a quelques instants, là on en évite un second, de croire en un Dieu trop humain. C'est probablement une tentation plus courante aujourd'hui, la tentation du déisme. Dieu serait le créateur ultime, certes, mais le créateur distant. Dieu pourrait être le créateur et même souverain, mais il ne s'intéresserait pas à nous en tant que personne. Encore une fois, le Dieu du christianisme est très différent. Non seulement il fait absolument tout dans sa création, mais il s'en occupe. Et ça se voit parce qu'il donne des ordres et des prérogatives à ceux qu'il a créés, par exemple donc au verset 22 pour les animaux, ou encore au verset 28 pour les humains. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » D'après ce texte, Dieu s'intéresse aux détails de nos vies, ou en tout cas à ce que l'on fait. Ainsi, non seulement Dieu amènera son plan à achèvement, mais en plus, son plan est bon. Bon de manière objective, mais bon pour nous. Soyons rassurés. Dieu ne nous a pas oubliés, et Dieu tient à nous. Ainsi, si Dieu est souverain et s'il est bon, il a forcément un plan merveilleux. Mais on n'a toujours pas répondu à la question, quel est ce plan? Eh bien, c'est un plan de repos. C'est le troisième point de ce texte. Il faut voir en effet que le texte de la création ne s'achève pas sur la création, il s'achève sur le repos de Dieu. C'est très étonnant. Dieu est Dieu. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, nous dit le psaume 121. Il faut donc probablement percevoir la fin du texte comme le but de la création. C'est pour cela que tout a été créé. La création n'est pas créée pour être créée, mais pour la période de repos qui suit. Encore une fois, c'est comme lorsqu'on cuisine. Le but de la cuisine n'est pas le gâteau, ou la dinde, ou le plat que vous venez de préparer. Le but de la cuisine, c'est le repas. Ça n'a pas de sens de faire de la cuisine pour faire de la cuisine. De même, Dieu ne crée pas pour créer. Il crée afin d'accueillir dans cette période de repos. Et d'ailleurs, le texte lui-même fait une analogie. Dieu est présenté comme un artisan qui travaille 6 jours à la tâche, toute une semaine. On peut imaginer par exemple un menuisier qui travaillerait sur une table. Au bout de la semaine, le travail est achevé, il s'arrête et se repose. Mais le but du travail était-il uniquement de construire cette table? Non, le but c'était de pouvoir l'utiliser, possiblement avec plusieurs personnes. Voici donc ce que fait Dieu le jour du sabbat. Il prend plaisir en son travail, en sa création, peut-être même en la partageant avec d'autres. Rappelons-nous que le texte s'adresse d'abord au peuple d'Israël qui est dans le désert. Et pour ce peuple, la mention de repos est pleine de sens. Alors bien sûr, le repos, ou le sabbat, c'est le temps mis à part pour Dieu, de manière hebdomadaire. C'est aussi des temps de repos pour certaines fêtes. Mais dans le contexte du premier chapitre de la Genèse, le repos est celui que Dieu nous invite à rejoindre. On a chanté tout à l'heure le psaume 95. Il dit « Aussi je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Dans le contexte, Dieu jure que le peuple n'entre pas en terre promise. Pour un Israélite, le repos de Dieu évoque nécessairement la terre promise, et donc aussi la communion avec Dieu. Et pour les chrétiens aussi, la mention de repos devrait être pleine de sens. Alors en effet, Dieu est bon. Le mal dans le monde ne peut pas être sa faute. Alors, ce sera ce que détailleront les chapitres 2 et 3 de la Genèse, mais le mal dans le monde est dû à la faute de l'homme. Et il y a un problème avec cette perspective. Parce qu'à cause de cela, on a une dette morale envers Dieu. Nous sommes coupables devant lui. Il faut que Dieu rende justice à ce sujet. En plus, à cause de nous, le mal est entré dans le monde. Il va falloir l'éradiquer, nettoyer notre bazar en quelque sorte. Jésus-Christ a fait les deux. En mourant à la croix, il a payé pour nous la dette morale, levant ainsi notre juste condamnation. En ressuscitant, il a vaincu les puissances du mal, en particulier la mort, et a ainsi commencé une œuvre de restauration. C'est la bonne nouvelle du christianisme. La victoire est déjà obtenue. Il suffit désormais de s'humilier devant Dieu, de le suivre en acceptant son Fils, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, afin d'obtenir la vie éternelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'avec le début de la restauration, vient aussi une promesse, celle de la fin de la restauration. Ainsi pour nous, la perspective de la Genèse est encore plus grandiose. Car si le peuple d'Israël ne voyait que son propre rétablissement, nous, nous y voyons le rétablissement du monde entier. Nous pouvons, nous aussi, entrer dans le repos de Dieu. Et cela dans une perspective éternelle. Jésus-Christ a promis de renouveler l'ensemble de la création afin de donner du repos à tous ceux qui croiront en lui. Et nous attendons ce renouvellement, cette nouvelle création, afin d'entrer pleinement en communion avec Dieu. Je ne peux pas résister et je vais vous lire la description qu'en fait Apocalypse au chapitre 21. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ainsi Dieu a un plan qui l'amènera à terme et c'est un plan bienveillant pour nous. Ce plan, c'est d'entrer en communion avec nous et de pouvoir admirer sa création en laquelle il prend plaisir. Alors ça peut peut-être vous surprendre que je parle autant de but alors que le texte parle de l'état initial. Il y a une perspective normative dans les origines. Ce qui a été, c'est ce qui doit être. C'est pour cela que ce texte doit être principalement compris comme la présentation du but initial de Dieu, et donc comme une présentation de son projet, même si bien sûr il peut désormais aller au-delà. Après la lecture de Genèse 1, nous devrions nous dire, voici ce qui était, voici donc ce qui sera restauré. Alors, nous cherchions à connaître le plan de Dieu pour en évaluer sa réussite. Le texte a-t-il répondu à nos attentes? Eh bien, seulement partiellement. On sait désormais où Dieu veut aller, la communion avec lui. Nous savons que Dieu est bon, donc on n'a pas à s'inquiéter. Nous savons qu'il est souverain, et donc qu'il accomplira son projet. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi le projet n'a-t-il pas encore réussi? Comment Dieu compte-t-il arriver à son but? Il y a des suggestions dans ce texte, mais ça reste léger. On voit que l'homme est placé comme souverain sur la création. Donc probable, vu son niveau de responsabilité, qu'il participe à l'échec temporaire du projet. C'est vraiment ténu dans ce texte. Rétrospectivement, nous savons aussi que, pour arriver à son but, Dieu va utiliser son Fils, Jésus-Christ, qui donnera sa vie pour nous. Et encore une fois, ce n'est pas abordé directement. Alors comment évoluer le plan de Dieu? Eh bien, même si la restauration du monde n'est pas totalement accomplie, elle est déjà commencée. Même pour l'Israélite au désert, qui vit donc avant la venue de Jésus-Christ, certains points sont déjà en place, ou au moins en chemin. La communion avec Dieu est même possible, bien que difficile. Il y a un livre entier dans la Bible qui traite de ce sujet, comment rentrer en communion avec Dieu. C'est le livre du Lévitique. Mais nous sommes encore plus chanceux. Nous vivons après Jésus-Christ. Nous connaissons la nouvelle alliance. Nous avons vu l'accomplissement de certaines promesses. Dieu a déjà résolu notre dette morale. Il a déjà vaincu la mort. Et pour nous aussi, il est possible de rentrer en communion avec Dieu. Parce que quiconque accepte le sacrifice et la résurrection de Jésus peut entrer en communion avec lui. Le plan de Dieu a donc réussi parce qu'il est en marche. Le but de Dieu est de se faire un peuple en propre avec lequel il sera en communion. Et ce but ultime commence maintenant. Certes, nous attendons l'accomplissement final. Et c'est notre espérance. Mais dès aujourd'hui, nous pouvons goûter les prémices de ce plan merveilleux qui nous est présenté en Genèse 1. Je vous invite à la prière. Père éternel, tu es un Dieu merveilleux, tu es le Dieu créateur, Dieu souverain sur ta création. Et nous sommes bien faibles devant toi et nous te prions de nous accepter avec humilité. Mon Père, merci pour ce plan de salut que tu as fait pour nous, ce plan que tu as déjà accompli et tu nous as sauvés pour toi, pour être ton peuple. Je te remercie, mon Dieu, je te prie vraiment de toucher nos cœurs afin que nous soyons animés de la même envie, du même espoir et que tu nous transformes pour venir devant toi en acceptant ton sacrifice et être en communion avec toi pour la fin des temps. Amen.